Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Inciter les Français à la sobriété énergétique en visant le porte-monnaie, c'est la stratégie de Total Energy et d'Engie qui veulent aider les particuliers qui joueront le jeu cet hiver. Si leur consommation baisse, ils pourraient bénéficier d'un coup de pouce financier. Véhicules brûlés, tirs de mortier contre les forces de l'ordre, cette nuit à Alençon, des scènes de guérilla urbaine à en croire les syndicats policiers. Le PS et LFI boycottent un match de foot caritatif au motif que des parlementaires RN seront sur le terrain. La patronne des députés Renaissance leur recommande d'en faire de même. Marine Le Pen dénonce, elle, sur RTL, la haine. Alors, faut-il jouer ensemble, quelle que soit l'appartenance politique, quand la cause est bonne? On posera la question après ce journal au député Carl Olive, co-capitaine de cette équipe de foot parlementaire. Il est stupide et absurde de suspecter la Russie d'être derrière les fuites des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Moscou se défend de tout sabotage. Mais comment peut-on trouver ainsi des gazoducs à 100 mètres de profondeur? Qui en a les moyens? On vous explique tout à 12h40.
RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, un jour en France, chez vous.
Aujourd'hui, on part pour l'Aclusaz, la station de ski UP qui se transforme en ZAD. RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien de demain à 12h20. Alors que le gouvernement présente sa stratégie hydrogène, Christophe Bourou vous propose une balade en voiture à hydrogène. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, nous sommes mercredi, c'est cinéma, avec des jumeaux aussi surprenants qu'hilarants. La question du jour sur RTL.fr. Des députés boycottent un match caritatif en raison de la présence des l'URN, approuvez-vous l'attitude?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute un anniversaire, celui de Brigitte Bardot, une de nos dernières stars. Bon anniversaire bébé.
Avance à la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, Mossad. Hein.
Ah bah Mossad, automnal, enfin, comme vous voulez, mais en
comme
tout cas, il fait pas très beau.
Bon, les détails à la fin du journal, merci Peggy.
RTL Midi.
Inciter les Français à la sobriété énergétique en les récompensant financièrement. C'est le pari de Total Energy et d'Engie, convaincu que les consommateurs feront un effort plus important s'il est accompagné d'un coup de pouce financier, Marie Guerrier.
Oui, chez Total Energy, c'est le patron lui-même qui en a parlé hier. Nous avons, dit-il, apporté une aide sur l'essence. Nous allons le faire sur les autres sources d'énergie. Total, c'est l'un des fournisseurs de gaz et d'électricité aux particuliers. Le groupe devrait donc accorder des primes aux clients qui consommeront moins cet hiver que l'hiver dernier. Pour l'instant, pas de détails sur le mécanisme ni sur les montants. Engie, qui fournit également gaz et électricité aux particuliers, travaille aussi sur un dispositif financier incitatif. Là encore, on attend les modalités. Ce sera dans les prochaines semaines, selon l'opérateur qui promet un effet sur la facture. Depuis 2020 déjà, Engie incite ses clients aux économies à travers un dispositif qui s'appelle Mon Programme pour Agir. Alors, à la base, c'était pour le bien de la planète. Désormais, c'est davantage pour le bien du porte-monnaie. Les clients peuvent s'inscrire à des challenges. Ils gagnent des kilo-actes, des points, s'ils consomment moins que sur une même période donnée l'année précédente. Ces points peuvent servir à obtenir une réduction ou la gratuité sur un produit ou un service d'Engie.
Ces groupes ne sont pas les seuls à faire un geste. C'est aussi le cas de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Mais dans ce cas, ce ne sont pas les particuliers qui sont visés.
Oui, en effet, RTE a réalisé des recettes exceptionnelles, hein, plus d'un milliard d'euros. Alors ça provient des droits de péage payés par les importateurs et les exportateurs d'électricité pour pouvoir utiliser les interconnexions de réseau gérées par RTE. C'est technique, mais ça rapporte. Et quand il y a des excédents, eh bien RTE doit les reverser à ses clients au prorata de leur facture. Alors les clients, ce sont notamment les distributeurs d'électricité comme Enedis, le plus gros client, mais il y a aussi des industriels qui sont directement reliés au réseau RTE mais qui toucheront beaucoup moins en retour.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Dans le même temps, le gouvernement présente lui actuellement sa stratégie hydrogène, l'hydrogène sur la route. On en parlera à 12h20 avec Christophe Bourou qui nous dira s'il s'agit vraiment de la voiture de demain. Dîner sensible ce soir à l'Élysée. Emmanuel Macron réunit les piliers de sa majorité pour parler retraite. retraites. D'après les informations de RTL, le président de la République pourrait finalement choisir de présenter la réforme en janvier via un budget rectificatif de la sécurité sociale et éviter ainsi un passage en force dès l'automne.
Je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent connaissent le rappeur Kaaris, K-2-A-R-I-S. Kaaris, eh bien figurez-vous qu'il est en garde à vue.
On vous en avait déjà parlé puisqu'il s'était distingué lors d'une bagarre à l'aéroport d'Orly avec son rival rappeur lui aussi, Booba.
Il y a un an et demi.
Exactement, Kaaris qui est cette fois accusé de violence par son ex-compagne Guillaume Chiez.
Oui, des faits qui remonteraient selon la plaignante à janvier 2021. À l'époque, le couple est en instance de séparation. Une rupture décrite comme difficile par la jeune femme qui explique s'être rendue au nouveau domicile du rappeur. Là, Kaaris l'aurait prise à part dans son garage, roué de coups et bousculé au sol. L'ancienne compagne a présenté un certificat médical aux policiers qui constate plusieurs ongles cassés et une contusion au pied. Des faits que Kaaris conteste. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, mais depuis ce matin, il est donc placé en garde à vue, serein, selon son avocat, qui explique que son client a hâte de donner sa version des faits et réclame même une confrontation avec son ex-compagne.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Une vingtaine de véhicules brûlés la nuit dernière à Alençon, où des émeutes ont éclaté entre 23h et 2h du matin dans le quartier de Persaigne. Les policiers auraient été visés par des tirs de mortier, selon les syndicats. On sera sur place dans le journal de 12h30.
RTL Midi.
Le planning familial veut lutter contre la désinformation sur l'avortement.
Oui, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à ce sujet, il lance donc un nouveau site internet ivg-contraception-sexualité.org, un site internet agathlandais qui aura pour but de lutter contre toutes les fake news qui fleurissent sur la toile sur ce sujet.
Oui, et il suffit de faire le test en tapant l'acronyme IVG sur Google. Les premiers liens qui remontent sont heureusement des sites officiels, mais le quatrième référence est un site tenu par un couple de militants catholiques anti-avortement, par exemple, qui relaie de nombreuses fausses informations. Une femme aurait, selon ce site, 10% de risque d'être stérile après un avortement. C'est faux, les études prouvent que l'IVG tel qu'il est pratiqué aujourd'hui n'a pas d'impact sur la fertilité. Ils affirment aussi que la moitié des femmes choisiraient d'avorter en France, un chiffre donné sans perspective, sans explication, pour inquiéter sur un phénomène qui serait exponentiel, alors qu'en réalité, 30% des femmes avortent une fois dans leur vie. Dernier exemple, ces sites affirment que le fœtus pourrait ressentir la douleur d'un avortement au bout de 3 semaines. C'est là aussi faux. Les études parlent plutôt de 18 semaines pour cette perception de la douleur. Ce nouveau site du planning familial veut donc donner des réponses fiables sur l'avortement et contrer cette désinformation.
Agathe Landais pour
vous m'avez étonné quand même sur un chiffre. 30% des femmes avortent ou ont avorté en France.
En tout, une fois dans leur vie, selon les derniers chiffres de l'INED.
C'est un chiffre qui est important.
En Ukraine, le chef séparatiste de Lugansk demande l'annexion à la Russie. Vladimir Poutine demande au lendemain de la fin des référendums d'annexion dans cette région comme dans celle de Zaporizhia, Kherson ou Donetsk. À chaque fois, le oui s'est très largement imposé, des scrutins illégaux, résultats manipulés selon l'Union européenne. La météo, comme promis, on vous retrouve pour les détails. Peggy Broche, on peut dire que vous nous avez mis en appétit. Hein.
Oui, bah oui, un temps perturbé, un temps automnal de saison finalement. Alors il y a cette perturbation qui est bien pluvieuse depuis ce matin, qui glisse à l'intérieur du pays. On va la retrouver cet après-midi entre les Charentes, le Massif central, la Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes. On attend un bon cumul de pluie sur toutes ces régions et de la neige dès 2300 mètres sur les Alpes. À 2500 mètres, on pourrait même avoir 30 à 40 cm de neige. Ailleurs, un temps instable entre nuages, petites éclaircies, des averses également, des éclaircies plus larges au nord de la Seine. On échappe au mauvais temps si vous êtes là-bas. Près de la Méditerranée, pareil, de belles éclaircies avec du vent. Ça souffle également en Corse sous un ciel couvert et des averses même orageuses cet après-midi. Et le vent est bien sensible aussi sur la façade atlantique. Les températures, elles sont fraîches, même si on est en automne, on est en dessous des normales. 11 à Langres, 14 à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 18 à Clermont-Ferrand, 20 à Toulouse, 23 à Montpellier et 26 à Nice. Ça reste chaud dans le sud.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour en France, chaque jour l'info plus près de chez vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Aujourd'hui, direction la Clusaz en Haute-Savoie. Bonjour Serge Peillot.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
La Clusaz, célèbre station de ski qui se transforme en ZAD, en zone à défendre. Serge, les manifestants protestent contre la création d'une retenue collinaire, en clair un lac artificiel.
Oui, cette retenue de 150 000 mètres cubes doit permettre d'alimenter en eau les canons à neige qui se trouvent sur le domaine skiable, mais aussi la population en eau potable. Un projet qui, pour les opposants, porte atteinte à l'environnement, car la retenue doit être réalisée dans le bois de la Colombière, sur le plateau de Beauregard. Une ZAD, zone à défendre, a donc vu le jour. Une jeune zadiste qui occupe la forêt témoigne anonymement.
Ils ont une autorisation de défrichement en octobre et en novembre. Du coup, on occupe la forêt depuis vendredi soir, puisque les travaux risquaient de commencer à tout moment.
Pourquoi vous dénoncez ce projet ?
Principalement pour la neige de culture. Et pour l'eau potable, il y a d'autres solutions. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est le fait de privatiser une ressource qui va venir à manquer au profit de l'industrie du ski et du luxe. Et que ça va profiter à un pourcentage minime de la population qui a la chance de pouvoir se payer des vacances au ski. On n'est pas d'accord avec ça.
Serge, quelle est la position de la mairie face à ce mouvement ?
Alors, pour le maire Didier Thévenet, ce projet est indispensable à la vie de la commune et à son activité touristique.
Serge, je vous propose de vous arrêter parce qu'on n'entend pas. Donc, je vais reposer ma question et voir si on peut rétablir la liaison. Je vous demandais, Serge, la position de la mairie face à ce mouvement de protestation. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va mieux ?
Au niveau de la liaison, pour l'instant, ça va pas complètement mieux. Je suis pas sûre qu'on puisse retrouver Serge Payot. Je crois que la ligne
a été interrompue, mais ce n'est pas grave. On va s'adapter. Il est 12h11 et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Bien, ce titre, on va peut-être le développer en avance. On va être sur le football match.
Presque plus la politique que le foot, en l'occurrence.
Vous avez raison. Le match et je pense que vous connaissez cette information. Il devait y avoir un match ce soir avec les députés de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Eh bien, comme il y a des députés du Rassemblement national, il y a un boycott, notamment de la France insoumise, de l'ANUPS, mais également de Renaissance. On va être dans une seconde avec Carl Olive, qui est député des Yvelines, qui lui organise cet événement et qui va nous donner son sentiment. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Le foot a permis de rassembler toutes les Françaises et tous les Français bien au-delà des fans. C'est la victoire d'un collectif solidaire et fraternel qui revendique fièrement « Vive la République et vive la France !»
Hugo Bernalicis, le député LFI qui clame son amour pour le foot à la tribune de l'Assemblée. Le foot, oui, mais pas avec n'importe qui. Son parti, comme le PS, refuse de participer à un match caritatif au profit de l'association e-Enfance qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Refus parce que les parlementaires RN seront sur le terrain. Pour en parler avec nous, Carl Olive, député des Yvelines, bonjour.
Bonjour Céline Landreau, bonjour Pascal Praud.
Bonjour.
Vous êtes élue Renaissance. Aurore Berger, la patronne de votre groupe, a également recommandé de ne pas participer à ce match. Vous êtes co-capitaine, vous allez faire quoi ?
Le match aura lieu à 18h30, coup d'envoi officiel. Pour une belle et noble cause, vous l'avez rappelé Céline Landreau, e-Enfance qui lutte contre le cyberharcèlement. Nous allons offrir 35 000 euros grâce au travail des organisateurs depuis 3 mois, des partenaires, et je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et ça suffit, le diktat de la France insoumise qui...
C'est pas le diktat de la France insoumise, c'est Aurore Berger. Aurore Berger, c'est chez vous.
Pascal Pro, je vais vous dire, c'est le diktat de la France insoumise qui se réveille hier alors que ça fait...
Mais Aurore Berger, elle accepte le diktat. Vous l'avez
Oui, sauf que nous sommes pas des députés Godillot, voyez-vous, dans cette majorité.
Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, Carl Olive ?
J'ai vu le message sur la boucle.
Mais est-ce que vous l'avez appelé ?
Non, je ne l'ai pas appelé. Je respecte ce que la présidente, à titre personnel.
Vous respectez, mais vous n'obéirez pas.
Ah, mais on n'est pas un parti Godillot. Hein. Je pense que c'est aussi une manière de le
En plus, pour
de
jouer
de
au
montrer.
Football, des Godillots, c'est pas pratique. Il faut mettre des chaussures à
crampons. Alors justement, Pascal Pro, j'ai des Copas Mondiales dans la main au moment où je vous parle. Ce sont les
chaussures. Pas de marque.
Pas
de
pub. Non, pas de pub, mais c'est quand même avec celle-là que je vous ai...
Non, mais cette intolérance, vous la retrouvez dans votre parti.
C'est avec celle-là que je vous ai fait un petit pont il y a 20 ans de l'extérieur du pied droit. Vous n'en souvenez pas, mais c'était un très bon souvenir.
C'est possible. Mais cette intolérance, vous la retrouvez dans votre parti.
Non, je ne la retrouve pas dans mon parti.
Bah, Aurore Berger, non, mais parce que la France Insoumise, j'ai envie de dire, elle est peut-être dans son rôle. Mais la Renaissance,
elle est pas dans son rôle.
Plus étonnant.
Non, Pascal Praud, excusez-moi, Pascal Praud,
elle
n'est pas dans son rôle.
Elle conflictualise tout, la France Insoumise.
Moi, je vais vous dire, je viens du sport, comme vous le savez. J'ai été joueur, arbitre, président. Je fais partie de la Ligue de football professionnel. Mon combat, c'est notamment celui contre l'homophobie, le racisme et l'ingérence politique. Le sport, c'est cela. C'est vraiment rassembler toutes celles et ceux, et notamment pour une noble cause, comme ce sera le cas ce soir. Et quand j'entends du jour au lendemain la France Insoumise nous dire qu'il faudrait choisir le camp du bien ou du mal, mais où va-t-on?
Donc la, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui intervenait ce matin sur l'antenne d'RTL et qui
parle je suis d'accord avec toutes celles et ceux, et ils sont 50 sur la feuille de match, qui viennent jouer. N'oublions pas que le sport, c'est l'universalité. D'ailleurs, le collègue de la France Insoumise l'a rappelé il y a encore quelques mois. Oublions peut-être un peu vite qu'il y a encore quelques mois, dans le rugby, 15 parlementaires, l'équipe de rugby de l'Assemblée, eh bien, des joueurs comme Alexis Corbière, comme Louis Alliot, eh bien, échangeaient ensemble sur le terrain. Ça posait de problèmes à personne, voyez-vous.
Alexis Corbière,
c'est la mémoire qui flanche.
Élu insoumis, alors que Louis Alliot, élu RN, on le rappelle.
Oui, et
pour
ça
ceux
posait
qui ont
de, ça posait de Moi, je n'ai aucune connivence ni avec la France Insoumise, ni avec le Rassemblement National. En revanche, comme les 577 députés de cet hémicycle, ils ont été élus démocratiquement. Et qui, aujourd'hui, aurait le droit de dire qu'il y a des gens bien ou des gens pas bien? À un moment donné, il faut qu'on arrête. On arrête. Les étiquettes politiques, elles sont rentrées dans le short depuis tout temps. Ça fait des dizaines d'années que ça se passe comme ça, ici comme ailleurs. Et c'est un combat. Et si on veut faire monter le Front National, il ne fallait pas mieux s'y prendre. Madame Le Pen, elle devrait même faire une petite statue à Nupes, parce que c'est vraiment des ambassadeurs pour elle.
À Nupes et à Aurore Berger, hein, pardon de le rappeler, Carl Olive, Aurore Berger qui parlait du problème de l'image, de cette photo d'équipe qui pourrait exister avec des parlementaires.
Et qui est la patronne des parlementaires, hein, je rappelle,
oui, mais
c'est
y aura,
la patronne
y aura,
de votre groupe.
Oui,
hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de photo ?
Bien sûr qu'il y aura des photos et je vais vous dire, et non mais excusez-moi, quand on joue au football il y a, et puis ce soir, alors pour le coup il y aura un maximum de journalistes accrédités qui veulent tous venir.
Carl, donc les parlementaires vont jouer contre qui? Contre des célébrités, des joueurs,
il y aura un certain nombre.
Tous ces joueurs sont d'accord pour jouer contre des parlementaires du Rassemblement National. Là, il n'y a pas de défection du côté des joueurs.
Mais attendez, Pascal Praud, vous savez comme moi, on ne s'est jamais posé une seule question dans le monde du football, y compris politique, quand on était sur un terrain de football. Moi, j'ai joué au football avec des gardiens qui s'appelaient Patrick Braouzec. Oui. Et pourtant, j'ai aussi combattu parfois les valeurs de M. Braouzec en tant qu'élu communiste. Il faut arrêter, on marche.
D'accord.
Sur la tête,
vous jouez sur le terrain, vous êtes à gauche ou vous êtes à droite?
Ah, moi, je suis numéro 10, Pascal Praud.
Ah, donc vous êtes
pour ça que c'est pour ça que de temps en temps, je vous mettais des bonnes transmissions à droite.
Platini, numéro 10.
Arrière droit, je me souviens à l'époque.
Oh, ça, c'est méchant. On n'a dit pas d'attaque personnelle. Merci en tout cas, Carl Olive. Carl Olive qui a été un brillant journaliste sportif. Comme quoi, le journalisme sportif mène à tout.
Bah, vous en êtes la preuve,
merci,
Pascal.
Merci, Carl Olive.
Merci beaucoup.
Ah, mais il est revenu, monsieur Bourou. Vous êtes revenu avec votre voiture à hydrogène.
Une petite surprise pour vous.
Vous avez fait combien de kilomètres?
Très peu.
Ah oui, parce que je vous ai écouté ce matin en fil rouge. Évolué. Ça s'est arrêté?
Oui.
Ah là 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 là. Finalement, je vais peut-être garder ma voiture à essence.
Alors, si ça vous fait rien, Pascal, on en parle après?
On en parle après. 12h19, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Sur la route. Sur la route, oui, avec Christophe
Bourou. Sur la route, pas vraiment, puisqu'il est revenu de la route. Il a failli aller sur la route. Faudrait trouver une chanson. J'ai failli aller sur la route.
Mais il n'a pas failli, il y est allé.
Mais bon, il n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, t'ennuyeux.
Oui, puis c'était pas le défi, mais bon.
Ah bon.
Vous êtes promené, donc, Christophe Bourou, en voiture à hydrogène ce matin avec Jonathan Griveaux, alors que le gouvernement présente en ce moment même son plan hydrogène. Vous avez, vous, testé l'hydrogène sur la route. Alors, vous êtes revenu, vous êtes en studio avec nous, de retour de ce périple matinal en Normandie. D'abord, on a envie de vous demander très clairement, est-ce que la voiture à hydrogène, c'est bien la voiture de demain ?
Peut-être pas la seule, mais en tout cas, elle pourrait occuper une place importante parce que, à mes yeux et pour beaucoup de constructeurs, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre l'électrique et le thermique. Comme pour un thermique, vous avez une bonne autonomie. Par exemple, on avait 666 km d'autonomie sur notre modèle.
666
Oui,
c'est le chiffre du diable, hein. Faites attention, 666.
C'est le chiffre officiel, hein. C'est pour un exo de Hyundai. Oui, un peu, mais là, vous allez chercher des choses un petit peu symboliques.
Moi, je ne monte pas dans une voiture qui fait 666 km.
Vous pouvez rouler.
superstitieux.
Voilà, vous êtes superstitieux. Et alors attendez, parce que attendez la suite, justement, vous allez voir, vous allez pouvoir conjurer le sort, puisque cette voiture ne dégage que de la vapeur d'eau, pas de CO2. Mmh. Et d'ailleurs, je vous ai apporté, alors c'est pas de l'eau bénite, mais c'est de l'eau qui sort directement de la voiture.
Une voiture
vous allez
à l'eau pouvoir bénite, tester. Ça pourrait me plaire.
Alors, tenez.
La papa, vous feriez du monde au Vatican.
Voilà, ça sort de la voiture, c'est de l'eau. Vous pouvez tester, allez, ah bah, buvez non, mais... sur les bocas. Allez-y.
Vous voulez que je boive l'eau qui est dans votre voiture ?
Qui sort de la voiture ?
Ah bah dites donc, mais vous êtes sûr que c'est pas un piège ?
Non,
bon, je laisse boire d'abord Céline.
On connaît votre courage,
c'est
Pascal.
Sur la page Facebook, bon. Parce que pour authentifier le fait que ce soit la vraie eau.
Ah oui. Alors... Ah, c'est, on sent bien le bitume, hein, on sent le kilomètre. Hein. Ça sent un peu. Non, non, c'est bien, on sent le goudron.
Donc ça veut dire ça, c'est quoi ?
Elle
c'est
était dans
c'est,
la voiture.
C'est ce qu'on met dans le carburant ?
Non, ce qui sort de la voiture, c'est de la vapeur d'eau.
Non, mais juste qu'on soit très clair.
On va être très clair. La voiture, comment ça fonctionne ? En fait, c'est une voiture électrique, une voiture à hydrogène, mais qui produit sa propre électricité en mélangeant l'air extérieur avec de l'hydrogène. Ça fait une réaction chimique grâce à une pile à combustible.
C'est quoi l'hydrogène ?
L'hydrogène, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Alors moi, j'étais très mauvais en physique à l'école.
Ça commence mal.
Oui, ça commence mal. Mais on va dire, pour faire simple, c'est ce qu'on trouve dans la nature, mais... On le trouve pour le, on va dire pour l'isoler, pour pouvoir l'utiliser, il faut faire des réactions chimiques. Et le problème aujourd'hui, c'est que la production de l'hydrogène, eh ben, c'est pas de l'énergie propre, puisque 95% de l'hydrogène vient des hydrocarbures. Or, le gouvernement aujourd'hui est en train de dire qu'il faut faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir de l'éolien, par exemple. Ça serait vraiment une solution idéale pour moins polluer l'atmosphère.
Mais alors, quand on a une voiture à hydrogène, on fait le plein comment ?
À une station. À une station. Alors, ce qui est bien, c'est que ça ne change pas d'une station traditionnelle. Vous faites le plein en 5 minutes versus une voiture électrique où là, il faut 20 minutes minimum pour faire le plein. Mais là, c'est comme une voiture
avec un pistolet. Comme quand on met de l'essence ou du gasoil.
Vous posez ça sur la voiture, le pistolet met de l'hydrogène dans la voiture et en 5 minutes, vous avez le plein.
Bon, là où il y a de l'hydrogène, est-ce qu'il y a du plaisir ?
Oui,
conduite,
il y a du plaisir de conduite. Je vous confirme, Pascal, il y a du plaisir. C'est comme une voiture électrique, c'est silencieux, c'est hyper agréable. Il faut aimer les boîtes automatiques parce que c'est qu'en boîte automatique. Mais franchement, c'est top. En plaisir de conduite, oui.
Et c'est dangereux, ça peut s'enflammer. On a parfois parlé des dangers.
Ouais, c'est la question qui revient souvent. Alors, il faut savoir que, par exemple, sur ce type de voiture, là, sur la Hyundai Nexo, par exemple, mais la Toyota Mirai, c'est pareil, parce que c'est les deux seules voitures qui circulent actuellement en France. Il y a 70 crash tests qui sont réalisés pour homologuer la voiture. En gros, normalement, pour une voiture traditionnelle, c'est 20-30 crash tests. Donc là, c'est plus du double. Et en plus, on tire à balles réelles sur les réservoirs d'hydrogène.
Ce qui arrive quand même pas tous les jours.
Non, il y en a 3 dans la voiture pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que l'hydrogène, c'est très inflammable.
Bien sûr. Et je rappelle que quand une voiture électrique prend feu, on ne peut pas éteindre.
C'est compliqué. Ça prend beaucoup de temps.
Ça pose un vrai souci.
Ça met beaucoup de temps.
Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais tu ne peux pas éteindre l'incendie d'une voiture électrique en flamme.
Non, il faut. D'ailleurs, les pompiers se forment de plus en plus à ce type d'opération parce que c'est extrêmement long et compliqué.
Bon, donc vous nous dites les crash tests sont concluants, c'est pas plus dangereux qu'une
autre. C'est à vendre aujourd'hui ?
Non, ce qu'il y a le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pas de voilà, il faut que le marché s'ouvre, il faut que.
Mais parce par
que
exemple, si je veux acheter une voiture à hydrogène aujourd'hui, peux.
Oui, mais
dans n'importe quel constructeur, chez n'importe quel constructeur.
Il y en a deux qui le font.
Et vous avez pas écouté parce que
Hyundai, Toyota sont les constructeurs asiatiques, BMW aussi, mais aussi les Français aussi. Alors sur les véhicules utilitaires, mais pour l'instant les prix sont très élevés parce que par exemple la voiture qu'on avait ce matin, c'est 80 000 euros. Mais parce qu'il y en a
80 000 euros
pour l'instant, parce qu'il y en a très peu.
Oui.
Et lorsque ça va se là, il y en a, ils font une vente par an en France. Là, c'est 200 parce qu'ils vendent aux taxis.
On a bien fait d'en parler.
Il y a très peu de ventes. Quand ça va se démocratiser, là, effectivement, les prix vont baisser.
Bon, et c'est dans combien de temps, à votre avis ?
Ça peut aller vite, puisque vous savez très bien qu'il y a l'interdiction de vendre des voitures thermiques d'ici à 2035. Donc ça va donner un bon coup d'accélérateur pour l'hydrogène.
Filière. Merci beaucoup, Christophe.
Merci. Je suis un peu inquiet de ce que vous nous avez fait.
Mais
je me sens
inquiété
très bien.
Pascal.
Depuis quelques secondes, je ne sais pas
si vous remarquez, il n'en a pas bu, lui, quand même.
Non, il n'en a pas bu.
Si, j'en ai bu, et ce matin,
mais pas
j'ai bu.
Oui, pas devant nous.
Moi, je pense que nous
tenez,
sommes...
Tiens, j'en bois.
Bon, voilà. Bah oui, mais écoutez...
Dernière goutte.
Il est 12h28, l'édition de 12h30 dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi depuis une demi-heure. Il est précisément 12h31.
RTL. RTL Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est le moment de votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Voiture brûlée, tir de mortier, les forces de l'ordre évoquent une véritable guérilla urbaine la nuit dernière à Alençon dans l'Orne. On sera sur place dans un instant. Dîner sensible ce soir à l'Elysée sur l'explosive réforme des retraites, passage en force, discussion avec les oppositions. Alors que sa majorité se déchire, Emmanuel Macron pourrait finalement choisir une troisième voie. Il est désormais passé en catégorie 4. L'ouragan Ayan et ses vents à 220 km/h s'approchent des côtes américaines de Floride où la population s'est calfeutrée et redoute le pire. Stupide, absurde de suspecter la Russie d'être derrière les fuites de gazoduc Nord Stream en mer Baltique. Le Kremlin se défend de tout sabotage. Mais comment peut-on trouver ainsi des gazoducs à 100 mètres de profondeur? Qui en a les moyens? On vous explique tout après ce journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT Midi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, ce sera donc cinéma avec Stéphane Boutsock. On parlera jumeaux et Marilyn Monroe. La question du jour sur RTL.fr. Des députés boycottent un match caritatif en raison de la présence d'élus RN. Approuvez-vous l'attitude?
Et puis, tous ces sujets que vous aborderez à 13h, j'ajoute la proposition de Bruno Le Maire qui ne portera plus de cravate, qui prône le col roulé. Est-ce que vous allez faire la même chose?
Est-ce que cette saison, le col roulé? Oui, a priori.
Ah bah écoutez, on peut, hein, parce que c'est vrai que c'est frais, c'est pluvieux et c'est gris, donc automnal.
Météo complète à la fin du journal. Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Une vingtaine de véhicules brûlés, des policiers visés par des tirs de mortier. Ces scènes de guérilla urbaine, selon les mots des syndicats policiers, ont eu lieu cette nuit à Alençon, dans l'Orne. Un déchaînement de violence dans le quartier de Persaigne, Christian Panvert, où l'on est ce matin complètement désabusé.
Oui, désabusé, c'est exactement le mot qui résume le sentiment des habitants que j'ai croisés ici. Mohamed a du mal à cacher son émotion devant une voiture calcinée au pied de sa tour.
Il y a trop de drogue dans notre quartier. On se lève le matin, les gens veulent aller au boulot. Sans voiture, c'est pas, ça fait mal. Ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé.
24 véhicules ont été brûlés, 60 tirs de mortier en direction des policiers ont été enregistrés. Une quarantaine d'hommes, casques sur la tête et boucliers en main, sont intervenus jusqu'à 2h du matin. Stéphane Tristan, délégué départemental du syndicat de police Alliance.
Hier après-midi, les fonctionnaires de police d'Alençon ont interpellé un individu pour un refus d'obtempérer. Cet individu a été placé en garde à vue. Des gens font de l'argent sur le dos de la santé des personnes. Et cet argent-là, bah, c'est un gros pactole. Et puis, bah, on ne touche pas au grisby, entre guillemets, quoi. Ceci dit, maintenant, la police d'Alençon ne baisse pas les bras. On va continuer à harceler ces personnes.
Deux hommes ont été interpellés cette nuit. La préfecture a mis en place pour ce soir, mais aussi pour les jours qui viennent, un dispositif de sécurité renforcé dans tout le quartier.
Christian Panvert à Alençon, donc dans l'Orne pour RTL. Le rappeur Kaaris en garde à vue. Il est soupçonné de violence conjugale, accusation de son ex-compagne.
Passage en force, discussion avec l'opposition. L'exécutif doit dévoiler sa méthode dans les prochaines heures pour la réforme des retraites et les chantres du « en même temps » pourrait choisir une troisième voie.
Histoire, oui, de ménager toutes les susceptibilités sur ce texte particulièrement explosif. Toutes les pistes devraient être abordées lors d'un dîner ce soir à l'Élysée avec les piliers de la majorité, Thomas Desprez. Mais à la fin, c'est Emmanuel Macron qui tranchera.
Oui, fumée blanche attendue entre le fromage et le dessert ce soir à l'Elysée. Autour de la table, les ministres concernés par cette réforme, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le ministre du budget, Gabriel Attal, ou encore celui du travail, Olivier Dussopt, des ministres donc, et des responsables politiques, Édouard Philippe et François Bayrou seront de la partie, parce qu'on le sait, depuis 10 jours, le sujet divise dans la majorité, pas tant sur le fond de la réforme, mais plutôt sur son calendrier. Faut-il passer par un amendement au budget de la Sécu d'ici Noël ou par un texte dédié? Ce sont les deux options qui s'affrontaient ces derniers jours. Mais selon nos informations, Emmanuel Macron pourrait arriver avec une troisième voie. Vous l'avez dit, Pascal, un budget de la Sécurité sociale rectificatif en janvier. Le temps de se laisser le temps de la concertation tout en s'offrant la possibilité d'utiliser le 49.3. Il peut être utilisé sans compter pour les budgets. L'option offre donc l'avantage de ne pas se griller de cartouches et de mettre tout le monde d'accord, notamment le patron du Modem, François Bayrou. Selon nos informations, il serait favorable à cette troisième voie. Arbitrage attendu dans la nuit ou demain matin.
Thomas Desprez du service politique de RTL. Ils vont à l'encontre d'une des grandes valeurs du sport, qui est que le sport précisément, c'est l'endroit où l'on ne fait pas de politique. La réaction de Marine Le Pen ce matin sur RTL à l'annonce par les présidents de groupe PS et LFI du boycott d'un match de football caritatif sous prétexte que des parlementaires RN y participeront.
Tout à fait, autre chose à présent, 4300 lits fermés. l'an dernier, les places dans les hôpitaux continuent de baisser.
Et ça, alors que nous étions en pleine épidémie de Covid. Alors, comment l'expliquer? On a voulu comprendre ce chiffre avec vous, Odile Pouget. Bonjour.
Bonjour.
Ces fermetures de lits, elles sont d'abord liées à la pandémie.
Oui, parce que de nombreux services ont été contraints de façon temporaire de ne plus accepter de patients pour dégager des moyens en personnel, infirmières, anesthésistes, aides-soignants, qui ont pu ainsi renforcer les unités de soins critiques et de réanimation. La déprogrammation d'interventions, la transformation de chambres doubles en chambres simples pour limiter la contagion ont conduit également à une réduction du nombre de lits en état d'accueillir des malades.
Il y a eu aussi un manque de moyens chroniques.
Oui, c'est flagrant depuis des années. Très concernés, évidemment, les 1342 hôpitaux publics recensés dans l'Hexagone. Manque d'attractivité, salaire trop faible, pénibilité du métier de soignant, perte de sens. Un seul exemple, dans les 39 établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris, il manque toujours en cette rentrée plus de 1000 infirmiers. Faute de personnel, 18% des lits sont actuellement fermés, 20% en chirurgie, soit un lit sur 5. Concrètement, ça représente 5 à 6 mois d'attente pour un patient, par exemple, qui veut se faire poser une prothèse de hanche.
Une autre explication, Odile, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire.
C'est l'expression pour désigner la part croissante des soins sans passer une nuit à l'hôpital. On rentre le matin pour une intervention, on en sort en fin d'après-midi. Réorganisation tous azimuts au profit d'une augmentation des places d'hospitalisation de jour. Il y en a aujourd'hui 82 500, c'est 9 000 de plus qu'il y a 5 ans.
Merci Odile Pouget, spécialiste santé à RTL.
5 ans qu'elles attendent de ce moment, les familles de victimes du drame de Milas ont la parole à la barre.
Le 14 décembre 2017, leurs enfants étaient dans ce car scolaire qui a été percuté par un TER sur ce passage à niveau des Pyrénées-Orientales. La conductrice du car est jugée en son absence puisqu'elle est toujours hospitalisée après un malaise lors de l'audience la semaine dernière. Elle n'a donc pas entendu, Étienne Baudu, le témoignage de ses parents qui ont perdu leur enfant il y a 5 ans.
Oui, et tous ses parents racontent en réalité tous la même histoire. C'est l'anxiété qui s'empare d'eux lorsqu'ils apprennent l'accident. Marjorie, la maman de Loïc, est à ce moment-là au travail. Sandra, elle attend Teddy à l'arrêt de car du village, un car qui n'arrivera jamais. C'est ensuite une nuit d'angoisse dans la salle polyvalente de Mias où toutes les rumeurs circulent. Céline, la maman d'Alan, y voit des photos de son fils défiler sur les réseaux sociaux indiquant que son fils est mort. Elle ne veut pas y croire. C'est l'hôpital de Perpignan puis de Montpellier où ils devinent le pire sans que jamais on les prenne réellement en charge. C'est l'annonce du décès de leur enfant, Marjorie. Je n'ai pas reconnu mon fils, ils ont essayé de l'arranger, mais ce n'était plus lui. C'est leur descente aux enfers après le drame. Fabien, le papa de Loïc, tente de se suicider. Sandra tombe dans le coma. J'aurais voulu à ce moment-là ne jamais me réveiller. Céline prend des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères, non pas pour vivre, mais pour survivre, murmure-t-elle. Sur les écrans de la salle défilent des photos, celle d'Alan, il avait 13 ans, une tête blonde et un beau sourire, celle de Teddy, il avait 11 ans, un beau petit brun au sourire mutin, un champion de danse latine. Teddy, tu n'es plus là, tu danses dans les étoiles. Sandra, sa maman, s'effondre en larmes à la barre.
Compte rendu d'audience signé Étienne Baudu pour RTL.
RTL Midi. L'ouragan Yann est désormais passé en catégorie 4 et menace la Floride.
Ouragan qui a provoqué un blackout à Cuba en causant d'importants dégâts sur tout le réseau électrique. Il s'approche maintenant, vous le disiez, de la Floride aux États-Unis. Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de RTL dans la région où l'on se prépare au pire.
Oui, au fil des heures, la Floride devient une péninsule isolée. Les aéroports ferment les uns après les autres. Et hier, quand vous atterrissiez en avion, vous receviez des alertes stridentes, un peu angoissantes sur votre téléphone pour vous presser de vous mettre à l'abri, de faire des provisions, car Yann devrait frapper à 220 km/h et paralyser une partie de l'État. Sur la côte Est, à Cap Canaveral, la fusée Artemis, censée voler vers la Lune, a été déplacée de son pas de tir, rangée dans un hangar géant. Dans la région d'Orlando, les parcs Disney World et SeaWorld sont fermés aujourd'hui et demain. Et à la télévision, on voit constamment ce cône rouge écarlate qui, sur 120 km de large, va traverser lentement la Floride, tel un rouleau compresseur. Le problème, c'est que c'est un monde dont on ne connaît pas la trajectoire exacte. Elle bouge. Il y a quelques heures, la région de Tampa a été promise à la tempête du siècle. Finalement, l'œil du cyclone pourrait passer un peu plus à l'est. En tout cas, il est fortement conseillé à 2,5 millions d'habitants d'évacuer, surtout sur les côtes, car dans quelques heures, préviennent les autorités, il sera trop tard.
Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride, aux États-Unis.
Le sport avec le football, du beau football. calme hier soir, mais une sale ambiance au Parc des Princes.
Le Brésil affrontait la Tunisie en match amical dans l'enceinte du PSG. Un match de gala presque, avec à l'arrivée une démonstration brésilienne. Victoire 5-1 de la Seleção. Mais la fête a été plus que ternie, Jean-Michel Rascol, par le comportement de certains supporters tunisiens qui n'avaient, lui, rien de sportif.
Lors de la traditionnelle photo d'avant-match, les Brésiliens posent pourtant avec une pancarte où il est écrit « Sans nos joueurs noirs, nous n'aurions pas 5 étoiles sur notre maillot ». Mais dès l'hymne brésilien, les sifflets tombent des tribunes. Et si pendant le match, le Brésil est en mode samba, Richarlison, l'attaquant de Tottenham, reçoit une banane alors qu'il célèbre son deuxième but. La réaction après coup du capitaine de la Seleção, Thiago Silva.
C'est difficile de voir des images comme ça par rapport au racisme. Malheureusement, on ne peut rien changer la mentalité des gens. Mais j'espère que les gens puissent être un peu plus conscients que ça ne marche pas. C'est le passé déjà. Maintenant, il faut changer.
La fédération brésilienne dénonce un nouvel épisode de racisme dans le football. Pas de réaction de la fédération internationale. Le Brésil, fort de ses 15 succès consécutifs, sera le favori de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce là bien l'essentiel ?
Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Merci Jean-Michel. La météo, on vous retrouve Peggy Broche avec ce pull vert synonyme de fraîcheur.
Oui, on va dire ça si vous voulez, avec des températures sous les normales, 13 à 16 au nord, 18 à 21 au sud, 22 à 26 près de la Méditerranée. Globalement, c'est un temps perturbé. Le gros de la perturbation va se retrouver cet après-midi entre les Charentes, le Massif central, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, avec des pluies soutenues. Ailleurs, entre nuages éclaircis et quelques averses, sauf au nord de la Seine et près de la Méditerranée, où le temps reste sec avec des éclaircies et beaucoup de vent sur la façade atlantique, la Méditerranée et la Corse.
Merci Peggy.
Dans une seconde, notre deuxième focus, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous les deux touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines. Est-ce un sabotage ? Valentin Boisset nous dit tout.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau. Qui a bien pu provoquer les fuites sur les gazoducs Nord Stream au large du Danemark ?
Alors que la mer Baltique bouillonne toujours, tous les regards se portent vers la Russie.
Une eau qui frémit au milieu de la Baltique, l'image est impressionnante. Elle pourrait durer encore plusieurs jours, le temps que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 se vident. Gazoducs victimes de sabotage, d'après l'Union Européenne. Il n'y a plus de doute, les fuites sont bien le fruit d'un acte délibéré. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Preuve, s'il en fallait une, que ces trois fuites en deux jours ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont ces trous observés sur les tuyaux en acier et qui sont loin de ressembler à des fêlures, Valentin.
Absolument. S'il s'agissait de simples fuites, il y aurait des fentes sur l'acier des tuyaux. Or, selon les premiers éléments, les autorités suédoises parlent de trous béants par lesquels s'échappent des millions de mètres cubes de méthane. Alors, ces trous sont consécutifs à deux explosions. Elles ont été enregistrées par les sismologues suédois ce lundi. L'une de ces explosions a une magnitude supérieure à 2. Alors, par exemple, si on utilise de la dynamite, on est en fond marin, il en faudrait donc plus d'une centaine de kilos. C'est une très grosse bombe.
Sabotage, bien sûr, mais qui a intérêt à faire exploser ça, d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas faciles, parce que faire exploser à 100 mètres sous l'eau, j'imagine que c'est pas très facile à faire, à mener comme opération.
Ah, c'est une question compliquée. Juste quelques heures après les fuites, l'Ukraine a directement accusé la Russie d'un acte terroriste. La Russie vient tout juste de répondre là, il y a quelques minutes, en disant que c'était stupide. Et effectivement, c'est un peu compliqué de comprendre les motivations du Kremlin pour une telle action, parce que les gazoducs ont coûté extrêmement cher à la Russie. La Russie opère sur ces gazoducs, c'est Gazprom qui possède 51% du consortium. Ils servent les intérêts de Moscou, puisque c'est leur gaz qui passe normalement dedans. Alors l'explication que j'ai eue par un expert ce matin, c'est que de toute façon, à moyen terme, l'Europe veut se passer du gaz russe. Moscou a fermé les vannes depuis août. Alors avec ces explosions, il pourrait s'agir tout simplement du chant du cygne, une manière un peu spectaculaire de faire peur et de dire qu'il n'y aura plus jamais de gaz russe en Europe.
Et comment on va enquêter pour savoir vraiment qui est responsable de ces sabotages, Valentin ? Parce que c'est profond.
Ça va être très très long. Déjà car les fuites rendent actuellement la zone très dangereuse. Le gaz, ça peut s'embraser. Alors il est difficile pour le moment d'approcher l'endroit même de ces fuites. Un bateau ainsi qu'un hélicoptère sont actuellement en route, des bateaux suédois. Il faut déjà sécuriser la zone. Il est interdit actuellement de la survoler ou d'y naviguer. Du gaz devrait se répandre encore pendant une semaine. Puis il sera possible d'inspecter ces tuyaux qui sont basés à 100 mètres de profondeur.
Donc il y a des forts soupçons sur la Russie, bien évidemment. Mais à qui profite ce crime et en quoi la Russie peut-elle bénéficier de ce qui s'est passé sous l'eau? Je vous pose la question.
Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de la Russie. Non, mais honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question. L'enquête ne fait que commencer, donc je ne peux pas imaginer.
Et sur les circonstances, on l'a dit, c'est 100 mètres sous l'eau. Comment, très, très concrètement, Valentin, comment on fait pour aller faire exploser quelque chose à 100 mètres de profondeur? Parce qu'on se doute bien qu'on n'a pas un bâton de dynamite et avec un briquet.
Mais il y a deux méthodes qui peuvent se dégager. La première, c'est une méthode assez technique, en modifiant la pression à l'entrée du tuyau. Alors ça signifierait justement que ça viendrait du côté russe, puisqu'il faut pour cela agir sur les vannes. On modifie la pression, on l'augmente et le tuyau explose. Sauf que là, on a deux explosions à quelques kilomètres d'écart sur deux tuyaux différents. Donc l'autre thèse, c'est la pose de charge explosive, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faudrait envoyer un sous-marin, par exemple, puis des plongeurs spécialisés dans la pose de charge explosive à une telle profondeur. Ça demande beaucoup de moyens.
Mais c'est pas forcément militaire.
Pas forcément, non. Parce qu'il y a des États, effectivement, qui peuvent posséder ces sous-marins, mais il y a aussi les compagnies pétrolières, il y a aussi des océanographes qui peuvent posséder ce genre d'engin. Ou encore, plus surprenant, j'ai trouvé ça ce matin, des narcotrafiquants au début années 2000, absolument. Des narcotrafiquants colombiens ont été arrêtés avec des modèles de sous-marins qui peuvent aller à cette profondeur.
Bon, eh ben on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Valentin Boisset. Merci.
Dans un instant, LVT Midi, avec Stéphane Boutsock, avec le cinéma et avec Brigitte Bardot qui célèbre son anniversaire.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
12h52 et bon appétit si vous êtes en train de déjeuner. La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis d'ailleurs, c'est cinéma avec vous Stéphane Boutsock. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Stéphane. Et on commence par deux films sur la famille.
Oui, deux films qui ont été primés d'ailleurs dans deux des festivals les plus importants en France. On va commencer par Le sixième enfant de Léopold Legrand. Quatre Valois. Les Valois, ce sont les prix qu'on remet à Angoulême au Festival du film francophone, dont celui du public très envié et celui de la meilleure actrice pour Sarah Giraudeau, celle qui est à l'affiche avec notamment Benjamin Laverne. C'est l'histoire de deux avocats, un couple, ne peuvent pas avoir d'enfants et par une intrigue que je ne vais pas vous révéler, ils vont acheter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il est prononcé dans le film, le sixième enfant d'une famille de gitans qui ne souhaite pas garder cet enfant, qui ne peut pas le garder, donc ils vont l'acheter, ils vont se mettre d'accord en sous-main pour l'acheter. Évidemment, c'est contre la loi et le couple étant avocat, je ne vous cache pas que ça va un petit peu se corser. Ça, c'est le premier film.
Et elle
le
est émouvante, Sarah Giraudeau.
Pardon ?
Elle est émouvante.
Émouvante, c'est une formidable comédienne qui a toute une gamme de jeux. Elle peut être épatante dans la comédie et là, dans le drame, je peux vous dire qu'elle est vraiment bien. On en reparlera pour les Césars, à mon avis. Deuxième film, là, c'est une comédie. Ça s'appelle Jumeaux, mais pas trop. Film de Wilfried Méhance et Olivier Decret, prix du public du Festival international de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, avec à l'affiche Bertrand Huskla et Ahmed Silla. Deux frères, ils ont 33 ans, ils vont se découvrir. Il y en a un qui est blanc, il y en a l'autre qui est noir. Mais ils sont frères.
Ils sont jumeaux.
C'est une anomalie génétique qui existe, à part d'une donnée scientifique réelle. Il y a un cas sur genre 5 milliards, mais ça existe.
Mais ça fait un film.
Ça fait un film, ça fait une très très bonne
un
comédie.
Bon
des jumeaux noirs et blancs, c'est vrai que c'est pas court.
À la base, il y a un dossier, comme on dit. Ils vont apprendre à se découvrir, film qui dénonce au passage, mais de façon extrêmement lucide et bienveillante, les préjugés que l'un et l'autre peuvent avoir par rapport à l'un et l'autre. Et dans le premier rôle, je vous le disais, Ahmed Silla, qui est un acteur qu'on avait découvert dans L'Ascension, formidable comédie là aussi, qui trace son chemin dans la comédie, mais va aussi parfois vers des choses plus graves, et justement, c'est ce qui l'intéresse.
Le pire dans ce métier, pour ma part, c'est de faire des projections de carrière en se disant « Tiens, dans 3 ans, je voudrais un César. Tiens, dans 2 ans, je voudrais aller aux États-Unis, tenter quelque chose. » Tiens, en fait, je pense qu'il faut se laisser porter. Il faut pas être en contradiction avec ses valeurs. Bon, après, j'ai une chance incroyable, c'est que je reçois beaucoup de scénarios. Donc, j'ai cette chance de pouvoir faire des choix. Mais j'y vais à chaque fois au coup de cœur. Peu importe le rôle, peu importe le budget. Par exemple, l'Ascension, j'ai pas un rôle d'humoriste ou de comique. Des situations sont drôles. Mais le film est hyper touchant, hyper émouvant, quoi. Donc je pense que dans la tête des réalisateurs, tout de suite, et des réalisatrices, il y a eu un truc de « Ah, peut-être qu'on peut aller chercher chez Ahmed quelque chose de plus authentique. » Moi, j'adorais me déguiser quand j'étais enfant. Là, je vais faire un boxeur. C'est magnifique, c'est pour ça que je fais ce métier. Quoi.
Ahmed Silla à l'affiche donc de Jumeaux, mais pas trop, qui sort aujourd'hui.
Et c'est aussi la sortie de la Palme d'Or de Cannes sans filtre.
Alors, film du Suédois Ruben...
Oh là là. Tout est dans le... Oh,
non, mais attends, en fait, ça c'est de la communication, non pas non-verbale, non. Parce que vous l'avez dit, mais ça vous a pas bouleversé.
Je vais vous dire avec des vrais mots, oui. Moi je suis resté... hacké en mai dernier de ce film qui a en effet reçu la Palme d'Or. C'est la deuxième de ce réalisateur. Ça raconte en deux mots une croisière qui réunit des milliardaires et des influenceurs, influenceuses sur un yacht de luxe. Il va y avoir une tempête, ça va très mal tourner. Et donc, ça nous montre comment le petit personnel du bateau va se révolter contre ces riches qui sont, c'est vrai, assez ignobles. Donc, c'est la lutte des classes pour les nuls en 2h22. Je trouve que c'est assez long.
C'est le réalisateur quand même... de The Square.
Absolument.
Mais c'était bien The Square.
Oui, c'était bien ce soir. Alors, c'était bien. Non, mais ce type est très doué pour réaliser les films.
Ah oui, c'est de la mise en scène.
Donc, donnons-lui le prix de la mise en scène. Oui. Palme d'Or, honnêtement, la deuxième, je trouve ça un tout petit peu surcoté. Si je puis me permettre, il y a notamment une scène assez longue, dans le genre trop longue, où les toilettes du bateau débordent et les passagers vont se rouler dans leur propre déjection. Ça dure, je crois, un quart d'heure. On a compris le symbole. Vous voyez ce que je veux dire ? Les riches, c'est pas bien, etc. Bon, en tous les cas, allez voir ça quand même parce que c'est du cinoche, ça s'appelle donc Sans filtre.
Bon, le cinéma qui trouvera peut-être un peu plus de grâce à vos yeux, pas qu'au cinéma d'ailleurs, le film Blonde consacré à Marilyn Monroe.
Alors ça arrive sur Netflix aujourd'hui, allez-y avec un gros moral parce qu'on va vraiment découvrir le destin et la vie absolument tragique du début jusqu'à cette fin prématurée à l'âge de 36 ans de Norma Jean Baker. L'actrice qui endosse ce rôle s'appelle Ana de Armas, c'est pas le sosie de Marilyn mais c'est aussi à mon avis l'intérêt du film, mais elle a vraiment incarné cette actrice, on va découvrir ses mauvais choix masculins, ses mauvais choix amoureux. Il y a une scène épouvantable, une seule, mais elle dit tout avec le président Kennedy. Son enfance chaotique, l'absence du père, sa mère folle, les choix de film. Mais c'est un grand film de réalisateur. Et donc, celle qui incarne le rôle, c'est Ana de Armas. Et figurez-vous qu'ils ont tourné le film dans la vraie maison de Marilyn. Et elle y a vu, elle y a senti quelque chose.
I truly believe that... Je crois sincèrement qu'elle était au plus près de nous, elle était là. Nous voulions tous travailler dans le respect et la responsabilité pour lui rendre hommage. Nous étions à son service. Ça allait bien au-delà d'un film la concernant. Je ne pensais qu'à elle, ne rêvais que d'elle, ne parlais que d'elle. Elle était à mes côtés et c'était beau. Je sais qu'elle en était heureuse. Nous avons tourné là où elle a vécu, même dans sa maison, et c'était très fort. Il y avait un truc dans l'air, comme si elle approuvait ce que nous faisions. Ça peut vous sembler mystique, mais c'est la vérité et nous l'avons tous senti.
Ana de Armas, donc à l'affiche aujourd'hui de Blonde, qui arrive sur Netflix ce 28 septembre.
Stéphane, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Quel est votre film préféré de Brigitte Bardot ?
Alors là, vous me prenez au dépourvu. Je serais tenté de vous dire évidemment comme ça le mépris.
La vérité ?
Le titre. Oui, la vérité.
La vérité
absolument.
De Clouseau.
Absolument. Ouais.
La vérité de Clouseau, c'est vraiment à voir. C'est un film formidable qui n'a pas vieilli.
Avec ces scènes de procès qui sont
extraordinaires.
Et on voit l'excellente comédienne qu'elle était.
Bien, c'est exact. Exactement, excellente comédienne. Elle n'a plus tourné depuis 73, je crois que c'était Colino, Trousse-chemise.
Que t'es pas son meilleur film.
Non, bien évidemment.
Dépêchez-vous pour les fleurs si vous voulez qu'elles arrivent aujourd'hui quand même, Stéphane.
Exactement, Brigitte Bardot,
merci.
Vous pourrez donner votre avis. Merci Stéphane. Merci vraiment beaucoup. Merci. La pause, le journal de 13h, les auditeurs ont la parole. RTL Midi.